Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit où nous allons parler du terrorisme. C'est un élément qui fait partie désormais de notre quotidien. En tout cas, en France, on a appris à vivre avec, au moins depuis le milieu des années 1990, avec la mise en place également du plan Vigipirate, désormais le plan Sentinelle. Et puis la France est régulièrement frappée par des actes de terrorisme. Et on va voir au cours de cette émission que le terrorisme est une arme utilisée parfois à bon escient par ceux qui l'utilisent, que c'est une arme qui correspond à une véritable réflexion stratégique et que c'est une arme qui est l'arme du faible parfois à l'égard du fort, en tout cas qui peut être extrêmement utile et qu'il y a toute une réflexion sur le terrorisme suicide et sur l'usage dont celui-ci est fait par les groupes qui l'utilisent. Pour traiter de cette question, je reçois cette semaine Benoît Schnebelen. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « La balistique du martyr, comprendre le terrorisme suicide » qui est paru aux éditions de l'École de guerre. L'École de guerre a créé, il y a maintenant peu de temps, un an et demi, une maison d'édition dans laquelle il publie plusieurs ouvrages de réflexion stratégique, d'histoire militaire aussi. Et donc c'est dans ce cadre-là que vous publiez cet ouvrage, donc « La balistique du martyr ». Le titre lui-même surprend un petit peu, parce que « balistique », ça fait penser au siège, si on se rapporte à l'époque antique, du moins à quelque chose qui est pensé, à quelque chose qui est intégré dans l'armée régulière, alors que le terrorisme, lui, est en-delà de ça, de l'armée régulière. Et en tout cas, l'image qu'on en a parfois, c'est que le terrorisme suicide, ce que vous étudiez, donc le fait de se tuer pour provoquer d'autres morts, correspond à quelque chose qui est parfois irrationnel ou qui est parfois conduit par des fous, voire des malades mentaux. Et ce que vous montrez dans cet ouvrage, c'est que ça correspond à une véritable stratégie militaire, guerrière, et que c'est une arme utilisée volontairement par ceux qui la pratiquent et qui la manient.
Exactement. Par balistique, j'entends également une référence aux missiles balistiques. Ces missiles qui possèdent une charge propulsive, qui les projettent initialement, et qui ensuite utilisent l'inertie pour passer d'un continent à l'autre et avoir une portée balistique, proprement balistique. J'entends par balistique du martyr le fait que des organisations commanditaires instrumentalisent des griefs sociaux, des griefs géopolitiques, qui sont bien réels, bien concrets, et qu'ils projettent ensuite leurs outils balistiques, ces martyrs, d'un continent à l'autre, et avec une portée qui est toujours de portée stratégique.
Et effectivement, c'est ce que vous montrez, c'est que dans ce terrorisme, il y a un moyen tactique. Il y a une efficacité qui est recherchée, qui est d'ailleurs souvent atteinte, avec une forme d'économie des forces.
Exactement. C'est le point d'entrée que je me suis donné pour étudier cette thématique. Parce que le terrorisme suicide, c'est quelque chose de très efficace, mais c'est quelque chose de très efficace dans le champ des perceptions. C'est quelque chose qui choque notre rationalité, en particulier en Occident, dans un Occident désenchanté. Donc pour sortir du piège tendu par le terrorisme suicide, il m'a semblé qu'il convenait d'étudier d'abord le phénomène tactique. Pourquoi sur le terrain, le terrorisme suicide peut être plus efficace qu'un autre mode de terrorisme ?
Alors effectivement, il y a la dimension d'émotion, l'émotion médiatique, c'est ce qui est recherché aussi, peu de morts, mais en tout cas une émotion qui est largement au-delà du nombre de morts réellement obtenus.
Exactement. Alors peu de morts, ça mérite d'être un petit peu nuancé. Les actes suicides, du moins dans lesquels le suicide est utilisé comme arme pour atteindre sa cible, sont d'une manière générale plus efficaces que les autres modes d'action du terrorisme. Néanmoins, en valeur absolue, effectivement, il y a peu de morts, notamment sur le théâtre français. Pour autant, le terrorisme suicide nous impacte très profondément. Et le terrorisme suicide impacte peut-être notre façon de voir ce qu'on appelle aujourd'hui notre vivre ensemble, ou la façon dont nous intégrons, par exemple, des générations issues de l'immigration, ou la façon dont nous interrogeons notre communauté et nos valeurs.
Alors, peu de morts, effectivement, en France. On va voir qu'à l'étranger, ça peut être différent. Pourquoi est-ce que, finalement, le terrorisme suicide est utilisé ? Quelle finalité et pourquoi cette arme-là et pas d'autres types d'armes ?
Eh bien, je vais prendre une image un petit peu triviale. Si dans deux équipes de football, parce que partageant les mêmes règles sur le terrain, une équipe est composée de 22 joueurs et une autre de 5 joueurs, c'est-à-dire que l'une écrase l'autre avec ses moyens ou avec ses techniques ou avec sa masse, l'autre n'a aucun intérêt à suivre les règles du jeu initialement conçu, tel qu'il a été initialement conçu. Donc il faut trouver des moyens de contourner les modes de protection de l'adversaire. Le suicide est une façon de pouvoir atteindre ses cibles beaucoup plus sûrement dans un environnement qui soit permissif ou moyennement permissif, et donc de contourner ainsi parfois la supériorité technologique, notamment occidentale.
Ce qui veut dire que c'est aussi quelque part une victoire de militaires de l'Occident, enfin, comme on a une prédominance, une suprématie sur la guerre classique, la guerre conventionnelle, ça oblige l'adversaire à utiliser d'autres armes, là, où il peut nous attaquer sur des éléments sur lesquels on a davantage de faiblesse.
Oui, mais au-delà de la compétition technologique, ça soulève un autre problème. C'est que la guerre qui est ainsi modifiée par ce contournement des forces technologiques, cette guerre est ingagnable. Parce que de notre côté, nous devons empêcher l'ennemi de nuire partout où il cherche à nuire. Mais de son côté, l'ennemi, il lui suffit de nuire quelque part pour être quelque part un petit peu victorieux. Il lui suffit de s'autodétruire pour montrer que son organisation existe encore. Les attendus ne sont pas les mêmes. Donc cette guerre est beaucoup plus difficilement gagnable.
Alors ce que vous montrez justement, c'est que dans l'usage du terrorisme, il y a un esprit révolutionnaire, une praxis révolutionnaire, et que cette arme est aussi au service d'un discours, d'une idéologie ou d'un projet politique.
Oui, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que nous sommes un petit peu otanien. C'est-à-dire que nous considérons que l'art opératif, c'est un échelon intermédiaire entre la grande stratégie des politiques et puis la tactique sur le terrain, c'est-à-dire le jeu des rapports de force. Et dans l'art opératif, eh bien, on intègre les différents effets qui vont concourir à la réussite d'une opération sur un théâtre ou dans une région du monde. Dans l'esprit révolutionnaire, il y a une forme d'inversion. C'est la marche qui compte, la grande marche en avant ou la bicyclette du Che, enfin... Les références ne manquent pas. Il s'agit de mettre en mouvement une masse suffisamment conséquente pour pouvoir alimenter avec le sang des martyrs, disait Khomeini, alimenter avec le sang de la nation en armes au XIXe siècle, alimenter donc l'esprit de la révolution.
Et si on parle d'armes du terrorisme, ça interpelle aussi sur cette expression qu'on emploie régulièrement, où on dit que nous sommes en guerre contre le terrorisme, mais si le terrorisme est une arme, non, ce n'est pas véritablement contre le terrorisme que l'on est en guerre, mais plutôt contre ceux qui l'utilisent.
Alors, je comprends cette remarque. Alors, bien sûr, il m'appartient pas de juger du bien fondé de la parole publique de tel ou tel pays. En revanche, ce qui est sûr, c'est que il est toujours intéressant d'extraire le mode d'action et de voir quels sont ses invariants sur d'autres théâtres pour voir quels sont, en quelque sorte, les présupposés de planification, quels sont les prérequis de l'ennemi pour pouvoir mener à bien ses campagnes, notamment ici, les campagnes de terrorisme suicide.
Alors justement, vous, dans votre ouvrage, vous parlez du terrorisme suicide, c'est le cœur de votre analyse. Il y a d'autres formes de terrorisme qui peuvent être utilisées. Dans le terrorisme suicide, on a souvent des modes d'action qui sont individuels. Ça peut être quelqu'un qui a une ceinture d'explosif et qui se fait sauter, ou bien une personne qui attaque avec une arme à feu et qui sait qu'elle va être tuée au moment de cette attaque. Est-ce que c'est nécessairement individuel, ou est-ce qu'il peut y avoir aussi une organisation un peu plus pensée qui pilote l'endroit où elle envoie ses terroristes afin de provoquer une sorte de conflagration plus grande ?
Même plus que ça. Lorsque l'on étudie le mode d'action pour lui-même, on se rend compte que l'organisation commanditaire est l'élément déclencheur principal. La théorie du loup solitaire, de l'auto-radicalisé, du fou solitaire, est très anxiogène, c'est sûr. Donc elle a un écho très, très important dans la société. Pour autant, elle ne traduit pas une réalité concrète sur le terrain, sur le mode opératif. La très très grande majorité des terroristes suicides sont toujours liés à un groupe. C'est la quasi-totalité des terroristes suicides est liée à un groupe. Les terroristes suicides appartiennent tous à une campagne de terroristes suicides. Et c'est pas seulement une construction intellectuelle où on a regroupé les terroristes suicides dans des clusters. Il s'agit bien de campagnes dans lesquelles on peut parfaitement identifier le message d'un commanditaire qui dit « vous allez mener telle ou telle action avec tel mode d'action pour obtenir tel effet sur tel type de cible ». Et ensuite, les différents supposés loups solitaires ou lions du califat ou autres qui vont ensuite mener cette action à bien.
Alors on l'a dit, en France, il y a eu peu d'attaques suicides avec finalement un nombre de morts assez réduit. Alors évidemment, chaque attentat est quelque chose de dramatique, surtout pour les victimes. Mais il y a d'autres pays, par exemple l'Irak ou la Syrie, où là, c'est employé en masse. Il y a parfois des attentats qui font 20, 30 ou 40 morts. Donc on est sur un autre registre. Est-ce que le terrorisme attaque uniquement les civils, qui sont des cibles fragiles et qui ne peuvent pas se défendre, ou est-ce que le terrorisme suicide est aussi employé contre des armées régulières ?
Le terrorisme suicide a un avantage, c'est qu'il permet de cibler plus précisément la cible. De plus, le terrorisme, d'une manière générale, tend à vouloir cibler des cibles qui sont parlantes pour l'opinion, pour son opinion. Pour autant, dans la réalité des chiffres, la majorité des victimes du terrorisme sont composées de civils. C'est-à-dire que cherchant à frapper des cibles peut-être parfois préférentiellement militaires ou policières, il frappe in fine beaucoup plus de civils.
Alors, l'armée française a été aussi confrontée à des attaques suicides en Afghanistan, au Sahel également. Comment est-ce qu'on peut combattre le terrorisme ? Il y a une dimension, vous l'avez dit, révolutionnaire, donc idéologique. Et puis il y a une dimension militaire, donc pratique. Pour une armée, par exemple l'armée française qui est en Afghanistan ou au Sahel avec Barkhane, quels sont les moyens dont dispose cette armée pour lutter contre le terrorisme ?
Alors ce sont les moyens sécuritaires habituels avec qui engagent également des moyens coercitifs. Ce qu'il faut noter sur la genèse des actions contre-terroristes, c'est que pour la partie suicidaire des attentats terroristes, elle a été considérée au départ comme un sous-ensemble de ce qu'on appelait la lutte contre les engins explosifs improvisés. C'était le vecteur pouvait être suicidaire comme il pouvait être par ailleurs un engin opéré par la victime ou téléguidé ou autre. Et donc ça a motivé une doctrine, et puis tout un vocabulaire, et une façon d'aborder le problème. Ce n'est qu'au bout d'une dizaine d'années de conflit en Afghanistan que l'on a commencé à réellement percevoir profondément les racines propres du terrorisme suicide, et ces combinatoires particulières dans le mode de recrutement et dans les effets à obtenir pour l'ennemi.
Parce que vous parlez du mode de recrutement, quelqu'un qui s'engage dans le terrorisme suicide, il sait qu'il n'a qu'une seule mission et que la mort est la finalité même. Un soldat d'une armée classique, bon, il peut y avoir mort, mais c'est quelque chose qui fait partie de la guerre, mais on n'est pas soldat pour mourir. Chez un terroriste suicide, on est soldat pour mourir. Donc c'est quand même une dimension psychologique complètement différente.
Complètement différente, effectivement. Un soldat conventionnel peut pousser son héroïsme et son courage, et nous l'avons vu notamment dans l'histoire de France, jusqu'à l'acceptation d'un risque qui pourrait passer pour inacceptable, par ailleurs. Pour autant, les conditions du combat, les conditions de l'issue du combat, ne sont pas forcément connus par ce soldat. C'est tout à fait différent avec un terroriste suicide qui, lui, prévoit sa mort et veut maîtriser sa mort, un peu comme s'il était Dieu, d'ailleurs. Donc sa préparation n'est pas du tout la même. Pour autant, il y a une forme de gradation. Il y a différents types de préparation. Entre le terroriste suicide qui va faire exploser une veste parmi des civils et le terroriste suicide qui va faire exploser sa veste, qui sera bien visible de tout le monde, après un combat avec des armes légères d'infanterie, ou celui qui va participer à une bataille conventionnelle, c'est pas du tout le même type de préparation. On comprend bien qu'il y en a un qui demande beaucoup plus de préparation. Il s'agit notamment de celui qui va agir dans le cas d'une attaque complexe, dans laquelle il y aura à la fois des armes conventionnelles utilisées et des terroristes suicides. On voit bien qu'il y a différents degrés dans la préparation du terrorisme suicide.
Alors vous citez quelques exemples d'organisations criminelles. On pense notamment à Al-Qaïda, qui est aujourd'hui la plus célèbre. Il y en a d'autres. Il y a le Hezbollah, il y a les Chebabs somaliens, les Tamouls. Quand on analyse ces différents groupes terroristes, est-ce que leurs méthodes sont les mêmes ou est-ce qu'il y a des variantes en fonction des objectifs qu'ils veulent atteindre ou en fonction de leur corpus intellectuel?
Alors le chercheur Robert Pape s'était penché vraiment sur cette question très très précise. Y a-t-il des invariants d'une organisation à une autre? Il a trouvé quelques invariants. Effectivement, ces organisations, qu'elles soient salafistes, qu'elles soient radicales, marxistes, enfin voilà, quel que soit le type d'inspiration de ces organisations, il s'agit très généralement de défendre un sanctuaire. Le terroriste se suicide, il est mobilisé pour la défense d'un sanctuaire qui serait menacé militairement par une force d'occupation étrangère qui ne partage pas la même religion et qui fait peser une menace existentielle à sa culture ou ce qu'il considère comme sa culture.
Ça serait des sortes d'anticorps répondant à un virus ou un microbe arrivé de l'extérieur et pour le chasser finalement, dans leur logique à eux.
Exactement, avec quelque chose d'essentiel, c'est que cet anticorps s'offre en sacrifice et il s'offre quelque part en victime expiatoire. Donc grâce à lui, la communauté va pouvoir survivre. À cet effet, il y a un point qui me semble parfois contre-intuitif, c'est que les terroristes suicides ne sont pas glorifiés uniquement par les franges les plus radicales des différents partis politiques et des différentes factions qui s'opposent sur un théâtre de guerre. S'il y a bien quelque chose qui met tout le monde d'accord, c'est les terroristes suicides, même les plus modérés. Dans des territoires occupés, dans lesquels on utilise des terroristes suicides pour se défendre contre une armée qu'on suppose d'occupation étrangère, etc., eh bien, les radicaux et les modérés s'accordent à honorer la mémoire du terroriste suicide.
Alors vous parlez, et c'est un de vos titres, de rationalité opérationnelle dans la manière d'agir, justement, ces gens que nous, on voit comme fous, comme irrationnels, en fait, vous montrez bien qu'il y a une rationalité dans leur manière d'agir.
Exactement. Les organisations commanditaires planifient leurs opérations, comme dans le cadre conventionnel, donc non terroriste, Onishi au Japon avait planifié les campagnes de kamikaze et les différentes vagues d'assaut kamikaze qu'il utilisait contre la flotte de l'amiral Ashley dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout ça, c'est planifié. Donc ça correspond à une rationalité avec une recherche d'effets sur des cibles bien déterminées pour obtenir des résultats politiques.
Alors vous citez les kamikazes. Là, c'est un exemple de terrorisme suicide d'État.
Oui. Alors c'est pourquoi le terme terroriste, ici, serait impropre au regard du droit international. La France fait partie des pays qui condamnent l'usage du terrorisme, quelle que soit la cause défendue. Donc ça sous-entend que le terrorisme est quelque chose d'accidentel et pas d'essentiel, c'est-à-dire que le mode d'action est jugé comme terroriste, quelle que soit la cause défendue. La défense du sanctuaire japonais dans le cadre d'un conflit conventionnel dans le Pacifique ne peut pas être considérée comme une cause terrorisme au regard de ce droit international. Cependant, les kamikazes qui se font exploser, eux, cherchent bien à terroriser leur audience cible, c'est-à-dire l'ensemble de la flotte.
Effectivement, c'est important de préciser que le terrorisme rentre dans le cadre du droit international et c'est un élément qui est, on va dire, interdit, ça n'a pas beaucoup de sens, en tout cas, qui est sanctionnable et qui n'est pas quelque chose de conventionnel ni une action qui peut être légitimement menée. L'autre dimension, donc on voit bien la dimension opérative matérielle, mais la dimension également intellectuelle, idéologique. Vous avez évoqué le cas du sacrifice, vous citez un auteur qui est René Girard, et vous montrez comment, effectivement, le terrorisme suicide rentre dans le cadre d'un sacrifice d'une personne qui se donne entièrement pour sauver sa communauté.
Exactement, c'est le phénomène du bouc émissaire. Il s'agit également de sortir de ce que René Girard appelait la crise d'indifférenciation. On est dans un monde dans lequel on connaît finalement, on peut considérer parfois que l'on connaît très peu de frontières ou d'identités. Voilà. Et donc, certains auditoires peuvent chercher à se recroqueviller sur des identités. Et donc, pour ce faire, se désigner un bouc émissaire pour engager un cycle sacrificiel qui permet de ressouder la communauté. C'est un outil, l'outil conceptuel de René Girard sur la rivalité mimétique et sur le bouc émissaire m'a semblé assez pertinent et assez efficace pour pouvoir interroger ce phénomène du terrorisme suicide.
Et il y a aussi une dimension de polarisation, c'est-à-dire que face à cet acte-là, tout le monde doit prendre position, on est pour ou on est contre, mais si on adhère, on se met dans le cadre de la communauté, si on n'y adhère pas, on est rejeté, en tout cas, de la communauté qui défend le terrorisme.
Exactement. C'est la polarisation voulue par un des auteurs de, si vous pouvez me passer l'expression de doctrine de l'État islamique, c'est Al-Nadji dans La gestion de la barbarie, qui décrit dans son récit un peu programmatique comment il cherche à polariser les opinions, polariser les différents segments de la population, et pour ce faire, gérer un mode de barbarie nous obligeant à prendre possession.
Alors la France a une longue expérience dans ce domaine-là, d'affronter une guerre insurrectionnelle. Il y a eu l'Indochine, il y a eu la guerre d'Algérie. On a David Galoula qui est un des penseurs qui a le plus pensé la contre-insurrection et puis qui a connu un renouveau ensuite aux États-Unis et en France. Est-ce que ça ne permet pas aussi, cette expérience combattante, cette expérience militaire de l'armée française au cours des dernières décennies, est-ce que ça ne donne pas aussi pour l'armée française une expertise particulière par rapport à d'autres armées occidentales ?
Cette expertise, oui, nous l'avons. Et nous pouvons apporter quelque chose à l'ensemble des forces de sécurité de notre pays. Cependant, cette expertise, nous la réapproprions. Vous avez mentionné très justement David Galoula. David Galoula a été traduit en français assez récemment. Par un colonel de l'armée française, le colonel de Montenon. C'est quelque chose de très récent. Il faut se réapproprier ces éléments de doctrine et cette expérience. C'est lié à notre histoire, à l'histoire de la Ve République, à l'histoire de la France, du rapport entre l'armée et les institutions républicaines.
En Europe, on a eu des formes de terrorisme aussi, comme l'ETA au Pays Basque, l'IRA en Irlande. Est-ce qu'il est logique que ce soit l'armée qui traite ce genre de choses ? Est-ce que ça pourrait pas relever, est-ce qu'on pourrait pas considérer que finalement ça relève du cadre de la police ? Et donc c'est à la police ou à la gendarmerie à régler, pour le terrain intérieur, mais pas forcément dans le cadre de l'armée.
Alors je parlerai des opérations extérieures, qui sont des opérations militaires, et pour lesquelles la militarité du problème ne fait aucun doute. Nous avons un ennemi qui utilise un mode d'action coercitif à l'égard de la France et de ses intérêts, et donc nous répondons avec la force armée. Les forces armées n'ont pas vocation, que je sache, sur le territoire national, à remplacer les forces de police. Ce n'est pas à l'ordre du jour.
Alors l'autre élément que vous montrez aussi dans votre ouvrage, c'est que les terroristes, qui du moins s'en prennent aux pays occidentaux, ont très bien compris comment ils fonctionnent, et notamment vous utilisez le concept de société du spectacle, où effectivement il y a une dimension très théâtrale dans le terrorisme, les lieux qui sont choisis, on l'a vu en France, Stade de France, les cafés, les journaux, les personnes qui sont visées, en tout cas il y a une mise en scène, ce n'est jamais aveugle. On frappe jamais au hasard. Les lieux, les personnes, les moments sont toujours très bien choisis de manière à correspondre à cette dimension théâtrale, cette mise en scène qui est importante pour le terrorisme.
C'est d'ailleurs ce qui a introduit mon propos, introduction d'ouvrage, c'est qu'on se fait la guerre beaucoup plus avec nos ressemblances avec nos supposées différences. On peut prêter au terrorisme suicide quelque chose d'un peu exotique, une pensée orientale ou autre. Non, le terrorisme suicide correspond très très bien aux fantasmes occidentaux de la société du spectacle. Il intoxique très très bien les images du cinéma, de la télévision et le monde de l'image, le monde du spectacle dans lequel nous vivons. Et il mobilise très très bien des émotions, en particulier les émotions négatives des audiences qu'il cherche à cibler. Donc ça correspond parfaitement. C'est plutôt une marque d'adéquation de l'ennemi à notre environnement informationnel que la marque d'un exotisme.
Est-ce qu'on sait si les penseurs du terrorisme, enfin ceux qui font usage du terrorisme, est-ce qu'ils ils se nourrissent d'auteurs occidentaux ou est-ce qu'ils utilisent aussi ce qui aurait pu être fait par exemple en Indochine, en Algérie ou ailleurs comme élément d'exemple, comme modèle de leur réflexion ou est-ce qu'ils sont dans l'improvisation, enfin, ou le tâtonnement un petit peu empirique ?
Alors, là-dessus, dans la communauté scientifique, je pense que ce sont les historiens qui peuvent nous apporter le plus d'éléments de réponse sur cette question qui est vraiment passionnante. Suivre à la trace les modes d'action tels qu'ils ont été développés d'un théâtre à l'autre et, ce faisant, regarder quelle organisation a transmis quel mode d'action à quel théâtre. Par exemple, le terrorisme suicide, très intéressant de voir comment il s'est étendu des sphères iraniennes vers le Liban, et par le Liban sud, s'est ensuite étendu vers la Palestine, franchissant un bond civilisationnel entre des sphères plutôt chiites et des sphères plutôt sunnites, qui pourraient passer pour contre-intuitives de prime abord. Mais l'histoire, dans son détail, nous montre qu'il y a une logique opérative, là-dedans.
On a l'impression aujourd'hui, et vous direz que c'est une impression ou pas, mais que la guerre classique conventionnelle, telle qu'on l'a connue, Deuxième Guerre mondiale ou autre, enfin des grandes armées qui s'affrontent, ça appartient un peu au passé, et que finalement aujourd'hui, et peut-être que ça changera, mais en tout cas aujourd'hui, l'essentiel des conflits, c'est entre une armée conventionnelle et des actions terroristes.
Il y a certainement une forme de continuum dans les différents degrés la conflictualité. Les conflits dits parfois hybrides sont souvent menés par des acteurs qui agissent sous couvert de forces proprement conventionnelles. C'est-à-dire que l'ombre du conflit conventionnel dit de haute intensité plane toujours au-dessus de ces conflits hybrides.
Et dans l'armée française, est-ce qu'il y a une... Enfin, comment est-ce qu'on forme les soldats à ce cas particulier du terrorisme ? Est-ce qu'il y a une formation spécifique ? Est-ce que vous avez partie de la formation générale ? Ou est-ce qu'il y a des armées spécifiques qui gèrent ces actions-là ?
Chaque armée trouve sa réponse. Pour la partie que je connais, c'est surtout dans l'étude des différents théâtres d'opération, avant les projections, que les soldats sont formés à réagir aux différents types de menaces auxquelles ils seront confrontés. Là, on parle de la formation tactique des soldats qui vont mettre en œuvre des gestes tactiques en groupe ou individuellement pour soit atténuer les effets de la menace, soit riposter, soit neutraliser, enfin, avec toute la gradation des effets à obtenir, des effets militaires sur le terrain. Il n'y a pas de recette miracle, c'est bien entendu, puisque chaque environnement va conditionner un type de tactique particulier. Pour autant, j'ai pu assister à des entraînements très, très intéressants entre des forces de police et des forces militaires qui échangeaient sur leurs expériences. Les expériences que nous avions pu glaner à l'extérieur pouvaient parfois être utiles pour des gens qui travaillent sur le théâtre domestique. Je parle là vraiment des savoir-faire très techniques sur le terrain.
On a l'impression, vu de l'extérieur, que le terrorisme suicide, c'est un élément qui est propre à la guerre urbaine. Parce que c'est peut-être plus facile, d'abord il y a plus de cibles, mais que c'est quelque chose qui est moins présent, voire absent, d'autres zones géographiques. Est-ce que c'est le cas, ou est-ce qu'on parle du terrorisme suicide ailleurs qu'en ville ?
Ça mériterait d'être interrogé statistiquement. Je n'ai pas de conclusion toute faite là-dessus. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que le terrorisme suicide, comme le projectile a une certaine valeur, il ne va pas être dépensé sur une cible qui n'a pas de valeur. Or, les lieux de concentration des cibles de haute valeur, c'est plutôt les villes. Donc je ne sais pas si c'est essentiel ou accidentel, mais de fait, le terrorisme suicide est plus présent dans les villes.
Et de fait, comme ça frappe beaucoup les civils, est-ce qu'il n'y a pas aussi une prévention à faire chez les civils pour avoir, on dirait, un esprit contre-terrorisme, comme il y a eu les gestes barrières à l'époque du coronavirus, sorte de vigilance. D'ailleurs, c'est ce qu'on a aussi en France. Quand on prend les transports en commun, on nous amène à être vigilants, regarder s'il n'y a pas un sac qui traîne, une personne un peu suspecte, enfin une sorte d'esprit contre-terroriste.
Alors, on s'éloigne un petit peu de mon domaine de compétences, mais si vous voulez connaître mon avis personnel sur la question, il s'agirait de prendre ça avec beaucoup de, avec d'infinies précautions, parce que le terrorisme suicide essaie d'inoculer un virus, comment dire, anxiogène au sein de la population, et parfois une certaine politique de défense pourrait participer à cette mécanique-là. Donc, à manier avec d'infinies précautions, trouver le bon équilibre me semble une gageure.
C'est ça, entre la vigilance normale et courante, et puis effectivement sans tomber dans un aspect complètement anxiogène, avoir des actions. Et d'ailleurs, comme vous le dites dans votre ouvrage, il y a eu, et encore une fois, évidemment, chaque acte terroriste en France est dramatique pour les victimes, mais il y en a eu finalement assez peu, notamment comparé à d'autres pays. Sur notre plan, l'Italie a connu des actions terroristes très, très violentes au cours des 70-80 avec le terrorisme d'extrême gauche comme Fraction Armée Rouge. En Espagne, ils ont eu ETA. Donc il y a des pays européens qui ont aussi, au cours des dernières décennies, été très fortement marqués par l'action terroriste, plus que la France.
C'est la raison pour laquelle j'ai voulu isoler ce phénomène tactique du terrorisme, du suicide utilisé comme arme par des groupuscules terroristes ou par des organisations terroristes, pour justement essayer de trouver les invariants. Les chiffres français sont trop petits pour pouvoir établir des corrélations un peu significatives. On ne peut pas, par exemple, à partir de quelques dizaines d'occurrences, de tentatives ou d'attentats ayant abouti, conclure à un taux d'efficacité ou de létalité globale des attentats terroristes suicides en France. Ce n'est pas possible parce qu'il y a un tel écart-type entre, par exemple, l'attaque du Bataclan, celle de Nice, et puis celle de Saint-Étienne-du-Rouvray où un prêtre a été assassiné pendant sa messe. On ne peut pas établir une moyenne entre ces différents chiffres, ils sont trop nombreux.
Et puis un des biais aussi de l'action terroriste, c'est qu'on ne parle que des actions qui ont réussi, et que lorsqu'un acte ou un terroriste est démantelé ou arrêté avant par les forces de sécurité, on n'en parle pas. Et d'ailleurs, c'est même voulu de ne pas en parler, de manière à ne pas encourager d'autres actions terroristes ou à ne pas effrayer la population. Donc on ne voit que ce qui a raté ou que les trous dans la raquette, mais on ne voit pas à chaque fois que les forces de sécurité ont réussi à démanteler un réseau ou à arrêter une opération en cours.
Oui, certains journalistes se sont penchés sur cette question, notamment avec le journal Le Monde, qui avait aggloméré une liste d'attentats qui avaient abouti et des attentats qui avaient été déjoués, donc au moment de l'attaque. Avant l'attaque, pardon, et des attentats qui avaient échoué, c'est-à-dire au moment de l'attaque, ils n'avaient pas réussi à atteindre leur cible. Ça me paraît assez significatif. Il me semblait intéressant d'agglomérer ces trois types d'attaques.
Et effectivement, dans votre ouvrage, vous ne parlez que du terrorisme suicide, donc il y a d'autres actions. Enfin, le terrorisme ne se limite pas à l'action suicide, il y a d'autres formes du terrorisme qui peut être utilisé. Finalement, si on devait faire une synthèse de cette action terroriste, au-delà des éléments religieux, politiques, au-delà également des groupes qui l'utilisent, est-ce qu'il y a un aspect commun, une sorte de colonne vertébrale qui parcourt l'ensemble de ces actions ?
Vous voulez dire l'ensemble des actions terroristes,
oui.
Quel que
suicide,
soit...
Suicide, pardon, suicide.
Ah, l'ensemble des actions, oui. Suicides. Eh bien, c'est le je pense que c'est un petit peu mon idée maîtresse. C'est ce narratif que je vous ai décrit en introduction sur la défense d'un sanctuaire par un groupe combattant qui se pose en martyr de la cause commune, un sanctuaire qui est supposément ou réellement menacé par une force armée d'occupation étrangère.
Ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal, dans le sens où c'est une réponse à une occupation étrangère, mais ceux qui en souffrent le plus, ce sont les habitants locaux. C'est souvent eux qui sont les cibles.
Bien sûr, on rejoint la thématique de la marche opérative propre au système révolutionnaire ou apparenté. Il s'agit d'abord de mobiliser les masses. Le vrai souci, la vraie finalité, c'est de mobiliser les masses. C'est la raison pour laquelle un grand nombre de ces attaques-là est planifié en fonction de l'impact médiatique qu'il pourra avoir. Les médias ne sont pas là pour exploiter l'attaque. L'attaque permet l'exploitation médiatique.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir évoqué pour Conflit donc, cette question du terrorisme suicide. Je vous rappelle votre ouvrage « La balistique du martyr, comprendre le terrorisme suicide » qui est paru aux éditions de l'École de guerre. Vous pouvez retrouver toutes les références de l'ouvrage sur le site internet de Conflit. Et je mentionne donc cette collection de l'École de guerre où vous pourrez retrouver beaucoup d'autres ouvrages consacrés à la stratégie et à l'histoire militaire. Et puis d'autres émissions de Conflit sur des thèmes assez proches, notamment une émission avec le colonel Santoni sur la guerre urbaine, qui on a un petit peu évoqué parce qu'effectivement le terrorisme suicide est une arme qui peut être utilisée dans la guerre urbaine, et puis également les questions de l'islamisme que nous avions évoquées avec Olivier Anne. Merci pour votre fidélité à nos émissions et à la semaine prochaine.